Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Vous écoutez l'émission Récits de vie présentée par Larissa et Juliette, émission préparée dans le cadre d'un atelier mené en collaboration avec l'Université Paris Diderot. Récits de vie se propose d'échanger autour du thème brûlant de la migration ou le déplacement volontaire de populations d'un pays vers un autre pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. Nous avons choisi de parler de migration sous un angle peu médiatisé, celui de la littérature et du foot. Je suis Juliette et en compagnie de Larissa. Comment ça va, Larissa ?
Très bien, merci.
Tu vas donc nous parler d'un livre ?
Oui, c'est ça, Feu pour feu de Carole Zalberg, publié en 2014 à Actes Sud.
Mais avant d'en savoir plus, petite pause musicale.
Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata moiar. Espanhol desse mundo fora, só vai mar. Terra de povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Nasceu, boia uma estrela que cata brilhar. E na mar, boia uma areia que cata moiar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit. Je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
C'était bien évidemment Petit Pays de la regrettée Césaria Évora. Saudade, mot portugais intraduisible, c'est aussi l'irrépressible mélancolie, le mal du pays qui caractérise la migration.
Mais qui sont ces gens? Si on connaît la migration politique ou les migrants économiques, on connaît moins la migration en raison de l'orientation sexuelle. Julia, tu vas nous parler de l'association Ardis, n'est-ce pas?
Oui, en effet, j'ai eu la chance d'aller à la rencontre d'une équipe de foot un peu particulière, celle de l'Ardis, la plus importante association française pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour. Et voici une interview en compagnie de François Granger, initiateur de cette activité foot.
L'activité foot a été créée il y a un petit peu plus de deux ans, à la demande des demandeurs d'asile que nous accompagnons à l'Ardis. Et en fait, c'est un sujet, le foot, qui revenait souvent dans les discussions et dans les récits de leur histoire de leur pays d'origine, dans lequel ils étaient souvent, dans cette activité, ils étaient souvent ostracisés. Et une fois arrivés en France, beaucoup d'entre eux s'ennuient, n'ont aucune activité parce qu'il y a un cours de procédure. Ils n'ont pas le droit de travailler, ils ont des titres de séjour interdisant au travail. Et donc, beaucoup de temps et rien à faire. Et donc, une fois par semaine, on aura donc organisé ce rendez-vous le samedi, qui leur permet de retrouver des amis de leur communauté, et puis, dans un esprit aussi convivial, sans discrimination aucune, bien sûr, que ce soit de sexe, parce que là, on voit que des garçons, mais il y a de temps en temps des filles qui viennent. Et puis, quel que soit leur pays d'origine, il y a des anglophones, des francophones, beaucoup de pays africains, bien sûr, sont représentés là dans l'équipe. Et puis, donc, c'est l'occasion pour eux de pouvoir jouer au foot. Donc, souvent dans leur pays, on ne leur donnait pas l'accès au terrain de foot, parce qu'ils étaient, pour beaucoup d'entre eux, discriminés pour... en raison de leur orientation sexuelle.
C'est pas la question de ça, il y a peut-être que c'est là.
Et donc là, c'est l'occasion pour eux enfin de s'amuser, de temps en temps de bien rigoler, de ne pas se contraindre à une attitude macho. Certains vont être naturels et s'exprimer librement. Et donc c'est l'occasion effectivement pour eux de se faire des amis aussi. On verra après l'entraînement, il y a des groupes qui se forment, ils vont boire un café ensemble, on prend un petit goûter ensemble, et puis quelquefois manger un kebab le temps de profiter du temps, parce que et donc ça leur permet aussi de se revoir en dehors de cet entraînement-là, de s'échanger des numéros de téléphone. Ça crée des amitiés, voire quelquefois des relations intimes, puisqu'il y a des couples qui se sont formés, j'en suis assez content. En dehors de ça, ça leur permet aussi de s'identifier, d'appartenir à une communauté. Ils disent souvent, moi, ma famille, c'est l'Ardis. Je connais personne sauf des copains de l'Ardis. D'autres homos, j'aurais pas su les rencontrer. Mais à travers cette association-là, à travers cette activité sportive, j'arrive à revoir des copains qui sont comme moi. Quelquefois, il y en a qui ont du mal à réaliser qu'ils sont avec d'autres homos, parce qu'ils sont tellement habitués à cacher dans leur pays d'origine leur réelle orientation sexuelle. Que certains sont toujours dans l'attitude à laquelle ils sont habitués, et puis d'autres se lâchent un peu plus. Quoi. Le capitaine de l'équipe, donc il était dans son pays d'origine en Ligue 1 de foot. Il a un très bon niveau technique, semble-t-il, un niveau physique encore tout à fait excellent. C'est des garçons qui courent. En dehors de l'entraînement de foot, qui court presque tous les jours pour s'entraîner. Donc ça peut se faire de façon individuelle, bien sûr, l'entraînement. Et donc, notre coach, il a été désigné, je dirais, de façon collégiale, assez simplement par ses copains, comme étant celui le plus pertinent en termes de technique. certains qui sont donc réfugiés maintenant, effectivement, ont moins l'occasion de participer à l'équipe, dans la mesure où le travail passe avant l'entraînement. Donc, ce qui est naturel, c'est qu'au bout d'un moment, une grande partie des réfugiés a un boulot qui les retient en dehors du terrain. Donc là, on peut dire qu'on a, en ce moment, je pense que sur le terrain, il y a 2 équipes de 7. Après la séance technique et après l'échauffement, ils sont en train de faire un match.
D'entendre Où aller où de Tiken Jaffa Coli après l'interview de François Granger, organisateur de l'activité Foot d'Ardis. Larissa, tu avais entendu parler de cette équipe ?
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, nous allons les écouter tout de suite.
Et ton rôle, c'est de faire la coopération entre les joueurs?
Oui, oui. Et au cas où il est absent encore, j'essaie de jouer à sa place, de remplacer, okay, et faire le coaching à sa place.
D'accord. Et parfois, c'est toi qui prends le relais du coach?
Oui. Au cas où il est absent, okay, s'il n'est pas présent, je me mets à sa place.
Qu'est-ce que tu ressens comme émotion quand tu es sur le terrain? De la joie?
De la joie et tout, le plaisir de rester avec mes potes, partager à un certain moment. Ça nous fait plaisir de se retrouver tous les samedis. Ça nous motive, ça fait encore développer nos relations, faire des connaissances. C'est d'ailleurs pour ça, je crois, que c'est la base de l'équipe. Et c'est une grande occasion pour nous de se connaître et de partager un bon moment ensemble et puis se faire connaissance, partager de bonnes choses ensemble. C'est la base. Ça nous fait vraiment un très grand plaisir de faire qu'il y ait une équipe d'artistes.
C'est très important pour toi, les rendez-vous du samedi?
Oui, très important. C'est très important. Complètement de faire de l'examen de dossier parce que j'ai été rejeté à l'OFRA et à la CNDA. Du coup, j'ai un rendez-vous le 6 mai pour faire en réouverture du dossier. Mais là, je suis optimiste, mais c'est très difficile, c'est dur. À la CNDA, c'est dur, non, c'est dur. Ça prend du temps, en plus, c'est dur. Et après, encore le rejet, tu te trouves dans une situation très précaire. Tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas te déplacer, tu n'as pas de moyens. Donc, c'est vraiment très difficile. Si vous me demandez ça, c'est très difficile. Très difficile.
Oui. I came here mostly every Saturday. Every Saturday I came here to train. I'm feel very, very good at place every day. I see every new faces. We come, we play. And really, I'm very happy over that. No, presently I don't have the refugee status, but I hope the refugee status, I will have it.
Et ça fait combien de temps que tu es dans l'équipe de foot?
Ça fait 4-5 mois.
Et tu faisais du foot avant de venir ici?
Oui. Ouais, j'avais arrêté il y a longtemps, mais là j'ai resté avec l'équipe de foot. Et ça nous permet de surtout décompresser avec toute la pression qui se pèse dans nos têtes et dans nos esprits, de se retrouver, d'approfondir nos connaissances, de se connaître. Parce qu'à Arnis, on se voit une fois tous les mois, alors qu'avec le foot, on a l'occasion de se voir tous les samedis. Donc, on a plus l'occasion de se voir dans le foot que même dans la situation.
Et de se réunir, d'être ensemble.
Ouais, avec le foot, c'est tous les samedis. Par contre, avec l'association demandeurs d'asile, c'est une fois tous les mois. Donc, on a beaucoup plus d'occasion de se voir avec l'équipe de foot qu'avec Arnis.
Et tu as lié beaucoup d'amitié ici,
oui,
en venant au foot?
Tout le monde. En fait, il n'y a personne qui a la difficulté de s'intégrer. Tu viens même pour la première fois, tu arrives à t'intégrer. On ne se casse pas la tête, on s'entend tous. On s'est connus tous là pour le même but. C'est pas de se prendre la tête, c'est surtout de se vider
le stress et tout.
Le stress et tout. C'est décompresser, donc oui, c'est ça le but. C'est fatigant, mais ça nous permet aussi de se voir, de se connaître. Changer d'idée.
Et t'en es où, toi, de ta demande?
J'ai déjà eu mon interview à l'OFRA. Là, j'attends juste les résultats. Donc, je l'ai fait le 23 mars de ce mois-ci. Donc, j'attends juste les résultats.
C'est ma première fois de participer à un entraînement de foot ici en France.
Et comment ça s'est passé aujourd'hui?
Bon, c'était génial. Donc on est là pour jouer, pour se retrouver encore, pour voir les amis. Bon, donc sur le sport, c'est bon pour la santé. Donc on est là pour s'amuser, donc pour diminuer le stress.
Ok. Ouais. Et t'en es où de tes demandes de...
Donc c'est le 24 mars que je suis passé à l'OFRA. Donc j'ai déjà. Bon, je n'ai pas encore eu la réponse, donc j'attends encore ma réponse à l'OFRA.
Joined the ADIC since last year.
Ok. And what do you feel when you're.
Ah, great. Feel free. Feel the game up. Because I've been playing in Prola from my country. So it's here. So I feel okay. Yeah, everybody's friendly. They're accommodating. It's okay. So I feel whenever I'm playing, I feel like. I'm home because I feel free, or like in my country, because in my country they are not express yourself as a message up somebody. You are just creating your life. But here, it's not like that. So you feel free here.
Nous venons donc d'entendre les joueurs de l'équipe très enthousiasmés par cette activité. Et toi, Larissa, tu vas donc maintenant nous parler d'un autre versant un peu médiatisé de la migration, celle vue par le biais de la littérature.
En effet, aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique autour du roman de Carole Zellberg, Feu pour Feu, aux éditions Actes Sud, que j'ai beaucoup apprécié. Née en 1965, l'auteur vit à Paris. Romancière et poète, elle a même été gratifiée du prix du roman métis et lycéen, en 2012, pour son livre intitulé « À défaut d'Amérique ». Dans Feu pour Feu, elle a réussi à apporter de la poésie et de la beauté dans le sujet sensible qu'est l'immigration. Il faut d'abord que vous sachiez aussi que ce roman est inspiré d'un fait divers qui s'est déroulé dans une banlieue de la région parisienne. Alors, en France, on parle souvent de ces migrants entre guillemets qui viennent pour voler notre travail et les aides de l'État. Mais la vérité, c'est que l'on ne sait rien ni d'eux, ni de leur but en venant ici. Ce roman se penche alors sur cet aspect de la migration qui est ignoré par la plupart d'entre nous, c'est-à-dire le parcours de ces pères et mères avec leurs enfants qui doivent à la fois protéger, mais aussi mener à destination. Ce roman montre à quel point les migrants sont désorientés et aussi seuls lorsqu'ils arrivent dans un pays étranger jusqu'à ce qu'ils intègrent un groupe de leur communauté. Donc Feu pour Feu montre avant tout que c'est un combat d'être un migrant, plus encore lorsqu'on a la charge d'un enfant. Le roman nous livre, avec une douceur inattendue d'ailleurs, les pensées d'un homme attaché aux valeurs de son pays, qui s'est oublié pour ne plus penser qu'à sa fille Adama, dont le prénom rappelle bien sûr le premier homme sur Terre. L'originalité du livre est de nous délivrer un message de paix, de tolérance et d'amour, en mettant dans la bouche de ce migrant un langage poétique, ponctué de phrases percutantes très dures à entendre, mais qui sont quand même le reflet d'une réalité que l'on peut difficilement ignorer. Petit à petit, donc, en mêlant les voix du père et de la fille, on en arrive au drame. Adama a mis le feu à une boîte aux lettres. L'incendie fera 18 morts. Le père d'Adama, dont on ne connaît pas le nom, ne cherche pas de coupable pour les actes de sa fille. Il pense que c'est lui. Pourtant, tout le livre nous montre que ce n'est pas le cas. Le coupable est à rechercher dans le rejet des Français et dans le deuxième exil qui leur est imposé dans les banlieues françaises où on les met souvent. Centre, plus grand, plus crasseux, plus grouillant d'une population en suspens, la tension est constante. Tout trahit l'éphémère, le minimum nécessaire pour un accueil qui ne devrait pas durer. Et pourtant, certains disent être là depuis des années. Des enfants y naissent, n'ont du monde que cette étouffante préhension. On l'apprend vite. Pour sortir, il faut demander l'asile. Et l'asile n'est offert qu'à ceux qui peuvent justifier sa nécessité. Maintes fois, je dois raconter la horde sanguinaire, son déchaînement sur notre village, un fléau dont rien ne réchappe. À part nous, mon Adama, qui nous sommes couchés si près de la mort que nous l'avons trompée. La mort, nous l'avons vaincue, mais il faut la dire, la détailler, à cette femme qui parle notre langue et écoute, et traduit à cette autre femme, ou non, ou mal, comment savoir ? Ce que nous avons cherché à fuir et pourquoi nous ne voulons, ne pouvons et ne devons pas rentrer. Je retrouve l'effroi et le chagrin. Je les laisse remonter de là où je les avais enfouis et qu'on les voit. Qu'on n'ignore rien de ce qui nous a fait échouer ici. Je suis de nouveau l'homme anéanti. J'en fais le serment alors, une fois là où nous pourrons être en vie sans avoir à justifier, détailler, exhiber la moindre seconde, nous avait conduit avec tant d'autres à l'exil. Plus jamais je n'emprunterai le chemin des mots qui me ramènent au drame. Donc c'était un extrait du livre Feu pour Feu de Carole Zellberg. Vous pouvez voir alors la finesse des mots qui sont utilisés et on voit aussi que ce père meurtrier, sa fille meurtrière, au final peu de choses les séparent si ce n'est que l'un subit et l'autre agit. Après avoir espéré si violemment, après avoir été arraché de ses racines qui lui étaient si chères et dont il était si fier, après l'exil et le rejet d'un pays qu'il ne connaît pas et n'avait jamais désiré connaître, Adama a commis l'irréparable. Trop souvent, on nous a montré l'amour maternel et si peu l'amour paternel, il faut le souligner. Et Carole Zellberg rattrape cette erreur avec brio en nous transportant directement dans le cœur d'un père pour qui rien ne compte plus que l'amour de sa fille et ses rêves. Le récit est celui d'un père et de ses sacrifices, mais c'est aussi celui de la brutalité de la vie, comme nous venons de le voir dans l'extrait, et de la preuve de la puissance destructrice et aussi créatrice. Plein de pudeur et de vérité, au ton poétique et cinglant à la fois, ce livre est une vraie réflexion sur l'immigration. Alors, il faut vous prévenir, hein, ce livre se lit très très vite, puisqu'il n'a que 72 pages et est très court, pour les plus fainéants d'entre nous. Et en plus, il se lit très facilement, parce que son langage est très facile. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies, mais aussi en ligne, sur Internet. Et si vous voulez en savoir plus sur Carole Zellberg, vous pouvez soit aller sur son site personnel, soit la rencontrer lors de ses nombreuses soirées littéraires. Et pour savoir quand est-ce qu'elles ont lieu, vous avez qu'à demander à Monsieur Google.
Très bien, merci Larissa pour cette belle chronique. J'aurais quelques questions à te poser par rapport au livre. Donc il raconte le récit de cet homme et de sa fille depuis leur départ de leur pays jusqu'en France, c'est ça ?
Oui, c'est ça, depuis le moment où ils ont été bombardés et que le père a pris en fait la décision de partir.
D'accord. Et tu nous disais que le récit a été écrit à la première personne. Comment ça se passe dans le livre qui parle ?
En fait, on est dans un récit où en fait c'est le personnage qui pense plus qu'il ne parle en fait. C'est vraiment lui qui fait son récit dans sa tête et de temps en temps en fait on a les paroles de sa fille Adama qui en fait nous retrace le présent plutôt que le passé son père et dans un langage assez jeunes avec des mots assez crus et donc c'est par son biais qu'on sait ce qu'elle a fait en fait.
D'accord. Eh ben merci beaucoup Larissa pour cette découverte.
Mais de rien.
On espère que vous serez beaucoup à le lire. Nous allons maintenant partir en compagnie de Monsieur Philippe Collomb, le président de l'association ARDIS, donc pour la reconnaissance des droits au séjour des personnes homosexuelles et transsexuelles, que nous avons interviewé. Voici l'interview avec Monsieur Collomb.
Est-ce que vous pouvez me parler de la naissance de l'association ?
Alors en fait, l'ARDIS est né au moment des débats sur le PACS, qui à l'époque s'appelait le CUX, enfin tous ces débats autour du projet d'union civile, parce qu'il y avait une préoccupation de savoir si ce texte permettrait à des couples binationaux avec une personne française et une personne étrangère de régler leur situation, puisque actuellement, à ce moment-là, la situation des couples binationaux de personnes de même sexe posait un certain nombre de problèmes administratifs, notamment sur le droit au séjour de la personne étrangère.
D'accord.
Voilà, donc en fait, l'association est née sur cette question-là, qui petit à petit a été de mieux en mieux réglée, qui continue à être une des préoccupations de notre association. On continue à s'occuper des couples binationaux, mais depuis 7-8 ans, il y a eu une très forte montée en puissance de la question des demandeurs d'asile. Et maintenant, l'activité principale de l'association porte sur l'accompagnement des demandeurs d'asile LGBT.
Quelle est la procédure pour un demandeur d'asile LGBT, un réfugié ? Comment ça se passe quand il arrive en France ?
Schématiquement, personne qui veut demander l'asile en France, elle doit retirer un dossier de demande d'asile qui va lui permettre, pendant qu'elle remplit ce dossier, d'être protégée, d'avoir un statut.
Okay.
Donc elle remplit ce dossier et un des éléments essentiels de ce dossier, c'est ce qu'on appelle le récit de vie. Donc, il y a un récit. Parce que le principe de l'asile en France, c'est que l'asile, c'est toujours une demande individuelle, qui doit se fonder sur des persécutions et des risques spécifiques à la personne. Et ça, c'est un des éléments très importants pour comprendre la procédure en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander la procédure en disant simplement « je suis homosexuel » ou « je viens de tel pays » ou ça et ça. Il faut dire « je suis homosexuel, je viens de tel pays » et je cours des risques pour telle raison. Et voilà ce qui m'est arrivé et voilà pourquoi j'ai dû fuir mon pays. Ce récit est écrit dans ce dossier qui ensuite est remis à l'OFPRA. Ensuite, après un délai qui peut être très long, et ça c'est un des sujets de préoccupation des associations, la personne est convoquée à l'OFPRA et elle l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. Cette personne, il va avoir un entretien oral, en gros, qui va reprendre les éléments du dossier écrit qu'elle a remis pour voir, pour essayer de tester la validité. En tout cas, l'agent de protection va lui poser des questions complémentaires et va essayer d'évaluer la véracité des faits qui ont été rapportés dans le dossier. Voilà. Et ensuite, l'officier de protection va instruire ce dossier. Et puis il va y avoir une réponse. Donc soit la réponse est positive et la personne obtient le statut de réfugié et est protégée par la France, soit le dossier est rejeté. Et à ce moment-là, la personne a la possibilité de faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, où là on se retrouve dans une cour de justice qui est avec des magistrats. Et la personne peut être assistée d'un avocat. Et là, elle va redéfendre son dossier, réexpliquer les raisons pour lesquelles elle demande la protection de la France et les persécutions qu'elle a subies. Et à ce moment-là, il peut y avoir une décision. Il y a beaucoup de dossiers qui sont, entre guillemets, repêchés par cette procédure. Et c'est d'ailleurs un des sujets de discussion qu'on a avec l'OFPRA, c'est de dire pourquoi il y a tant de dossiers qui finalement sont repêchés à CNDA. Est-ce qu'il ne serait pas plus efficace que l'OFPRA donne tout de suite au statut à tous ces dossiers qui finalement vont passer à l'après?
Et après, comment se passe le contact en fait entre ces personnes et l'association? Vous travaillez avec d'autres associations?
On a toujours travaillé avec les grandes organisations comme France Terre d'Asile, comme la CIMAD, comme le GISTI, et on a toujours été très identifiés par ces associations qui elles sont souvent plus directement au contact des groupes de réfugiés ou des demandeurs d'asile qui arrivent, et c'est souvent elles qui nous réorientent, ces personnes-là. Elles disent, nous on a un dossier LGBT, et comme ce que je vous disais, on a fait comprendre l'intérêt de notre travail, que c'était pas une approche communautariste au sens négatif, mais que c'était parce que comme il y a des spécificités en termes de confiance, en termes de récit, en termes de compréhension des enjeux, ces associations nous réorientent les dossiers assez rapidement.
D'accord.
Après, on a un site web qui fait aussi qu'on a une certaine visibilité, il y a un peu de la presse, enfin. Et puis, quand les personnes arrivent dans d'autres villes que Paris, on a aussi pas mal de relais dans les centres LGBT de région, etc., etc.
J'ai vu que vous proposez d'autres activités aussi en dehors de l'association. Enfin, je veux dire des...
Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'était un des aspects qui était le moins développé. On a longtemps été une association où on faisait strictement de l'accompagnement administratif pour les dossiers. Et c'était tout. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que c'est pas satisfaisant, que le système d'accompagnement social des demandeurs d'asile en France est totalement saturé. Donc, on se retrouve avec des personnes qui sont sans logement, qui ont des problèmes pour se nourrir, qui ont des problèmes pour se vêtir, et puis qui s'ennuient parce que tout bêtement, quand vous attendez 6 mois une réponse et que vous n'avez pas le droit de travailler, que vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas très bien, que vous n'avez pas de réseau, puisque souvent ces personnes, quand elles arrivent, elles peuvent difficilement se reconnecter avec la communauté des gens de même origine, puisque là aussi on va retrouver des phénomènes d'homophobie, donc ils se retrouvent assez seuls. Donc nous, maintenant qu'on essaye de développer des activités, donc des activités toutes simples, hein, comme par exemple la visite, des visites de Paris, qui est une activité qui marche bien, pour un peu découvrir simplement Paris. Ça coûte rien, mais il faut l'organiser. Et puis on organise aussi du foot, ça marche très bien, et d'ailleurs on est en lien, c'est assez rigolo, on est en lien avec une autre association qui s'appelle les Dégommeuses, qui à la base est une association, un club de foot de femmes, de femmes lesbiennes, et puis qui elle aussi s'occupe de réfugiés, plutôt des réfugiés femmes, et voilà, du coup on organise un peu des tournois ensemble, et c'est aussi des moments d'activité importants, de créer de la convivialité, de créer du lien, ça nous paraît aussi très important.
D'accord, bah, très bien, merci beaucoup.
Donc vous venez d'entendre l'interview de Philippe Collomb, le président de l'association Ardis. C'est l'émission Récits de vie sur Radio Campus Paris et je suis en compagnie de Larissa. Donc, comme Philippe Collomb le rappelait, la France accorde quand même le droit d'asile aux personnes homosexuelles et transsexuelles. Il y a beaucoup de dossiers qui passent. C'est important de le dire. L'association a actuellement 800 dossiers et procédures en cours. Et François, par exemple, que nous entendions dans la première partie de l'émission, a à sa charge 50 dossiers. Et François va plus loin, bien évidemment, que ses dossiers. Il rédige des CV et prépare des entretiens d'embauche. Voilà, vous allez maintenant entendre la seconde partie des témoignages des joueurs de l'équipe.
This is, I think, the third or the fourth time of training here. Yeah, I feel exciting, you know, meeting some people, you know,
and
friends, you know, in France. Yeah, I feel good, you know. Yeah, I've already went to Ofra, but they have rejected me. But by now, I'm going to Sendia. I expect that I will have my positive result.
Fait des études cette année-là, j'ai envie pour avoir mon CAP là. Bon, après ça, je vais continuer à faire mon bac. Bah, mais c'est pas tout le monde que je connais, c'est pour ça que je dis en anglais.
Today is my second training, and I've been in Addis more than 4 months now. I feel at least I'm home. It's like I have relief, I'm with my friends, my colleagues all around me, I'm making new friends, you know. I'm feeling everything about the training very exciting. Because at least I'm mingling with people, new people, I'm learning people. Like, as even you, I knew you today is my first time. So I'm feeling so good about that.
Oh, je me sens libéré. Bon, quand je suis ici pour le foot, j'oublie mes soucis, quoi. Puis je me sens parmi des gens que je connais par l'association. Je me sens libre, quoi.
I'm feeling good. It's good for my head. Yeah, I'm feeling good. Yes, I like Addis. I like to play my football on Saturday and Sunday to do football with all my friends. So I like it. It's very good.
I feel lively because I meet a lot of people and I make new friends. More especially today, another people have joined the training, so it's like it's very important to me. And I feel good about it. Currently, I'm a refugee in the process, but I've not yet been called. But by coming here, playing football with friends, it makes me happy.
Et ça fait longtemps que tu viens au foot, tu m'as dit.
Oui, ça fait longtemps, oui. Je crois que ça fait depuis le mois d'août, dernière, qu'on s'entraîne.
D'accord.
Régulièrement, chaque samedi.
T'as connu là, grâce à l'association Ardis.
Oui, exactement.
Ok. Et t'as fait beaucoup de rencontres ici au foot?
Ah oui, beaucoup de rencontres. oui, on se fait pas mal d'amis, tout ça là. Donc moi c'est très bien, ça nous permet de dégager un peu tout ce qu'on a encaissé dans la semaine, de se sentir un peu à l'aise, de s'épanouir. C'est une bonne chose.
Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur le terrain?
Ben, quand je suis sur le terrain, j'oublie tout. Tout le stress de la semaine, tout ce que j'ai vécu, tout ça, là, quand je suis dans le terrain, ça, je m'explose. Donc, je suis un peu libéré. Donc là, maintenant, c'est bon, là, je suis bien. Je suis free, ouais.
Et t'en es où dans ta demande?
Là, je viens d'avoir le statut. Ça fait un mois et demi que j'ai mon statut. Donc, je crois que Dieu merci et je dois continuer maintenant à entrer dans la vie active et voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve.
Faire une formation?
Oui, je compte faire une formation surtout parce que, bon, vu ce que le gouvernement a dit, il faut s'informer, il faut avoir une formation pour s'intégrer, bien s'intégrer. Donc, je compte bien faire une formation.
La meilleure manière de s'intégrer, c'est par le fait.
Sous un soleil ardent, un secret qui ne s'étale mais se ravale au-dedans. Au cœur des dunes, tu te demandes si t'as un grain, c'est grand. Celui qui m'accroche te différencie d'un brin. Certains, ni ton existence, n'acceptent pas que dans leur nid il y ait aussi une certaine résistance. Alors des choses qu'ils appellent naturelles d'ici, cela me semble tellement caricatural. pourtant ces envies qui te démangent, tu dois les camoufler, car ta vraie couleur dérange. Une inclinaison qui te rendrait détestable, pudiquement, je t'ai surnommé Rose des Sables. Rose des Sables, cible des salves, silhouette, au galbe gracile sur les pistes, sinueuse, petite alouette au grand cil. Pétale qui pédale dans les dunes, un soir à mater les étoiles dans cette capitale du nulle part sous la lune. Je t'ai écouté me raconter des histoires, me questionner, tu voulais tout savoir sur comment c'est là-bas, la façon de percevoir ceux de ton espèce. Est-ce une maladie, un péché, une bassesse? Iras-tu au paradis? Pardon, je n'ai pas toutes les réponses, mais pense que l'amour s'amuse à voler en tous sens. Qui a jamais pu décider ce qu'il ressent, comme se sentir rose au milieu des ronces. Rose des sables, cible des salves, silhouette, au galbe gracile sur les pistes, sinueuse, petite alouette au grand cil. Des sables peut se faner, combien d'années peut-elle rester condamnée à rentrer son pistil, ravaler sa sève, serrer les lèvres, taire le chant des amours impossibles. Ainsi puisse-t-il frayer son lit parmi les airs. Depuis toujours la vie s'amuse à défier les règles en force, ou en douce, et c'est en rejoignant la course des nuages qu'une goutte reste fidèle à sa source. Rose des sables, cible des salves, silhouette, au galbe gracile sur les pistes, sinueuse, petite alouette au grand cil. Je te souhaite une vie heureuse. Rose des sables, cible des salves, silhouette, au galbe gracile sur les pistes, sinueuse, petite alouette au grand cil. Je te souhaite une vie heureuse.
Rose des Sables, je te souhaite une vie heureuse. C'était la chanson du slameur Jonas, qui fut écrite à la suite d'une rencontre avec un jeune homosexuel en Mauritanie, où l'homosexualité reste condamnée à la peine de mort. Pour rappel, il y a encore 77 pays qui pénalisent l'homosexualité par la prison, la torture, les travaux forcés, et 11 pays qui la condamnent à la peine de mort, donc la Mauritanie, mais aussi le Nigeria, le Soudan et la Somalie. Philippe Collomb nous disait que la Hardis accueille donc des gens surtout de l'Afrique subsaharienne et du sous-continent indien, en raison de ces persécutions. Et la cause LGBT était aussi à l'honneur ce week-end à Nuit Debout, et nous vous laissons écouter cette intervention lors de l'AG vendredi soir.
J'ai effectivement participé à la réflexion qui a fait qu'on a fait des pancartes qui dénonçaient la délibération de la chambre de commerce du tribunal de prud'homme de Paris, qui se trouve juste à côté à Louis Blanc, et qui a décidé, acté, qu'une insulte homophobe dans ce cas n'était pas une insulte homophobe. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que demain, dans le monde du travail, une insulte sexiste, une insulte raciste qui justifiera un licenciement pourra être déqualifiée, et ça n'est pas acceptable. Je pense que je m'adresse dans cette assemblée à une majorité d'hétérosexuels. Vous avez le pouvoir. Vous devez absolument prendre position. Ça n'est pas acceptable. Et je demande... Vous comprenez, ça ne va pas de soi de se dire que quand on est PD ici, on est aussi le bienvenu. Donc, je demande que soit étudiée la possibilité d'une action par nuit debout auprès de ce tribunal donc, qui se trouve à côté, qui puisse être un rassemblement ou une déclaration. Je souhaiterais que plus souvent dans les textes de nuit debout, il soit mentionné qu'il y a aussi des homosexuels. Et je termine par une info en mode convergence des luttes. Donc, je vous informe, ou peut-être que certains le savent déjà, que la mairie de Paris entreprend dans quelques semaines la construction ici même d'un fabuleux village de football à l'occasion desquels, pardon pour les sportifs, hein, voilà, j'ai rien contre le foot, mais j'ai juste le souvenir où je vous ai bien cassé la gueule dans les vestiaires du gymnase des cours de sport. Et ça, c'est une expérience de PD. Et donc ici, il veut construire un village de foot. Et ce que je dis, ce que je veux dire pour vous terminer, pardon, c'est l'émotion. C'est que vous savez qu'il existe la marche des fiertés LGBT qui commémore une lutte qui a eu lieu en 69 à Stonewall, alors que la police rentrait dans les bistrots et délogeait les homosexuels. Eh bien, je conclue. Donc, la mairie de Paris a décidé que la marche des fiertés n'aura pas lieu, comme d'habitude, fin juin, pour des raisons de sécurité, afin de permettre la tenue, ici même, d'un grand village de football, et a décidé de... Là-dessus aussi, j'invite Nuit Debout à réfléchir et à prendre position. Merci.
Manifester pour venir prendre la parole. Ce soir, c'est très masculin, alors les filles, hein, n'hésitez pas à venir assurer la parité des paroles. Bonsoir tout le monde, c'est vrai que vous êtes super beaux vus d'ici, putain, c'est magnifique.
Nous voulons pas que les choses restent comme elles sont, parce que comme elles sont, elles ne sont pas bonnes. Mais surtout, nous ne voulons pas que les choses restent comme elles sont, parce que nous avons la capacité de transformer les choses telles qu'elles sont en un monde autre, différent, meilleur et désirable.
Et voilà quelques interventions captées à Nuit Debout lors de l'Assemblée Générale de vendredi soir. La première intervention faisait suite à la décision du Conseil des Prud'hommes de Paris qui estimait que le terme de PD ne peut être retenu comme propos homophobe. Une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre ce week-end. Baba ubale me yetale banit me na bad yetala techi kamatao kawakari yetashanyachi en quantarena dafto dem pasha yesata tasabalani letana sha Fidel gebeta net ga Hel mishin goma sekna Yad mele kazanin dagmen demaish men awqalewune Fidel gebeta net ga Anga tolle kambar bela Yad mele kazani yewlan chita Chala hune sama balo
sama balo balo balo
sama balo
sama balo balo balo
ara sami
balo balo balo
sami bala
sama balo balo balo
Nintawui helmezinao bahagare La senachiu
نقدر شيء تمري يا قرى بيت بيت داري وبيعبرا إنيام بي بوتاو سدتا يطرا كانم يعودا وكاتونون جي ما تروك نبرا يانيكات جاتجي ማን ነው ቃል ካገሩ ሰው ሲወጣ ስደት
ከወገኔ ራቀ ካገሩ የወጣ ሀገሩ እስኪመለስ ልብ ይነካል ሲሆን ቢጭኑ ታያ ቢለቁሙት ፈረስ
ልጅን ከእናት አባት የምትነጣጥለው ድህነት ጠላቴ ይኸው ዘራፍ ብዬ ወገቤን አሰርኩኝ ላበረከ ቤቴ
ሳት እርሳ ሲጨፍት ይገለጥ መጻፍ ወረ ጎራው በሉ ይህንኛን ጠላት ዳግም ላይመለስ ከስሩ
Campus Paris 93.9 FM avec Larissa et Juliette. Vous venez d'écouter Sidé de Yegna, magnifique chanson. Donc, revenons sur le mouvement Nuit Debout. C'est un mouvement apolitique et tout y est débattu. Et en plus, il est composé de toutes sortes de personnes, des syndicats aux étudiants en passant par les migrants. Juliette, tu étais donc ce week-end. Comment c'était l'ambiance là-bas ?
Alors ce week-end, c'était encore plus fort qu'il y a une semaine, donc jeudi dernier à sa création, où j'étais aussi. C'était, il y avait 4 tentes et une bâche pour projeter un film. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont là. Et c'est très beau, c'est très émouvant, tous les gens qui prennent la parole. On a l'impression d'enfin retrouver une démocratie participative. Et on assiste à une convergence des luttes. Donc, comme nous en débattions tout à l'heure, la cause LGBT, mais aussi le droit des femmes, l'écologie. Et voilà, toutes ces luttes qui se rassemblent et qui se soulèvent, on espère. Donc c'est la fin de notre émission Récit de vie. Merci à Radio Campus de nous avoir accueillis. C'était donc présenté par Larissa et Juliette sur la question de la migration vue par la littérature et la migration LGBT. On espère que ça vous a plu. Et Larissa, peux-tu nous faire une petite conclusion sur l'ouvrage ?
Oui, c'était un magnifique ouvrage. Franchement, je vous recommande de courir l'acheter si vous ne l'avez pas déjà fait pendant l'émission. Le roman de Carole Zalberg est paru aux éditions Actes Sud en 2014, donc il est brûlant d'actualité. Il n'est pas très cher puisqu'il coûte 12 € et est disponible partout vraiment en librairie et en ligne.
Merci Larissa. Et donc nous n'aurons fait qu'effleurer la question complexe et brûlante d'actualité de la migration. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous engager dans des associations, que ce soit Ardis comme Philippe Collomb le préconisait tout à l'heure. Et il y a aussi d'autres formes de bénévolat qui se mettent en place. Ou n'hésitez pas à faire un tour à Nuit Debout, où j'espère vous retrouver très vite. À bientôt.
Recognize it's your life.